affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Ce matin, comme nous tous, vous avez certainement passé en revue ce que vous alliez faire dans la journée. Vous avez peut-être aussi visualisé où vous en êtes d'objectifs à moyen ou à long terme. Vous avez également effectué de ces gestes que l'on accomplit de façon mécanique, surtout avant d'avoir pris son premier café. Éteindre son réveil, sortir de son lit, marcher jusqu'à la cafetière, appuyer sur le bouton marche, et seulement sur le bouton marche parce que la veille, vous aviez eu la bonne idée de déjà préparer le filtre avec du café moulu. Tout cela vous semble naturel et banal. Or, comme vous allez le découvrir au fil de cette émission, vous avez raison, ces gestes sont bien naturels, mais ils sont en réalité tout sauf simples ou évidents. Ils mettent en effet en œuvre un très grand nombre de mécanismes psychologiques et neurobiologiques mobilisés pour nous permettre d'anticiper et de prédire. Pour explorer cette capacité humaine, mais pas seulement humaine, ai-je découvert, à se projeter dans le temps, nous en avons en effet la chance de recevoir dans notre studio Alain Berthoz. Alain Berthoz, bonjour.
Bonjour.
Alain Berthoz, vous êtes neurophysiologiste, professeur émérite au Collège de France, membre bien sûr de l'Académie des sciences et auteur de nombreux ouvrages tels que « Sens du mouvement », « La décision » ou encore « La simplexité ». Et vous venez de publier, avec le philosophe Claude Debru, lui-même correspondant de l'Académie des sciences, un ouvrage collectif qui explore, c'est bien le mot, sous l'angle de diverses disciplines, la capacité à anticiper et prédire. Le titre exact, c'est « Anticipation et prédiction du geste au voyage mental ». C'est publié chez Odile Jacob. Tout d'abord, peut-on parler simplement du livre ? Qu'est-ce qui a motivé votre volonté de rassembler autant de spécialistes sur ce thème-ci ? Est-ce qu'il y a une actualité précise ? Est-ce que c'est l'air du temps, cette nécessité de se situer dans un monde en mutation permanente ? Ou sont-ce plutôt les découvertes récentes ?
Bien, tout cela en même temps. D'abord, l'anticipation, c'est une propriété fondamentale du vivant. Aucun animal, au cours de l'évolution, n'aurait pu survivre s'il n'était capable d'anticiper les gestes de ses proies ou les désirs de ses prédateurs. Et donc, avec Claude Debru, nous avons décidé de rassembler les spécialistes parce qu'en même temps, l'anticipation est un terme polysémique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens, et qu'il nous a paru intéressant de faire le point avec des spécialistes aussi bien des mathématiques, de la psychologie, des philosophes, et même il y a un représentant des personnes qui s'occupent des managers, de management. Donc c'est à la fois une propriété fondamentale du vivant, mais c'est en même temps un concept extrêmement flou, finalement, comme tous ces mots au singulier. Qu'on utilise la mémoire, l'intention, l'attention, et ben ça vaut la peine d'aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière ces concepts et de voir aussi à quoi ça peut être utile, pas seulement pour la vie de tous les jours, comme vous le mentionniez dans votre introduction, mais aussi pour éventuellement éviter que l'humanité sombre dans les catastrophes planétaires ou les catastrophes lié à la haine qui se répand encore aujourd'hui sur notre planète.
Vous avez parlé du fait que ces termes, un certain nombre de termes étaient au singulier. On sent que vous aimeriez les voir au pluriel, c'est bien ça ?
Oui, ben vous savez, au Collège de France, où j'ai eu la chance d'enseigner, j'ai pris, parce que c'est un peu le boulot qu'on doit avoir, hein, j'ai pris chaque année depuis une quinzaine d'années des concepts comme ça au singulier pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se cachait derrière. Et en fait, ce qu'on découvre, c'est que lorsque on prend chacun de ces concepts, même l'identité, la décision, etc., on découvre qu'en réalité, ils recouvrent, en ce qui concerne le cerveau, hein, moi je suis un physiologiste, donc je vais vous parler du cerveau, il recouvre des mécanismes apparus au cours de l'évolution et qui, pour certains, sont très automatiques, très élémentaires, en quelque sorte, et d'autres extraordinairement complexes, sophistiqués. Et donc, voilà pourquoi découvrir la pluralité derrière les concepts de prédiction, d'anticipation, c'est intéressant. Et puis, vous avez peut-être remarqué que dans ce livre, il y a un sous-titre « Du geste au voyage mental ». Et si vous voulez, on pourra dire ou parler de qu'est-ce que nous entendons par le terme de « voyage mental ».
Eh bien, écoutez, volontiers, on peut commencer par là et aussi expliquer en quoi il est relié au geste.
Oui. Derrière ce terme de voyage mental qui est utilisé actuellement par des chercheurs en neurosciences, en particulier aux États-Unis, il y a l'idée que l'anticipation est toujours liée au passé. Moi, dans mon premier livre, Le sens du mouvement, j'avais déjà proposé cette idée qu'en fait, la mémoire, ça n'est pas du tout pour se rappeler ce qu'on a fait hier ou le passé. En fait, la mémoire, pour moi, c'est encore une invention de l'évolution qui permet d'anticiper. Parce que lorsque je veux préparer un voyage ou lorsque je veux anticiper un geste, lorsque je joue au football, enfin, je ne joue pas au football, mais au tennis, eh bien, le cerveau a besoin pour élaborer correctement des scénarios du futur, il a besoin de l'expérience passée. Et le rapprochement avec Claude Debreu, philosophe, et moi-même physiologiste dans ce livre, est en partie lié à l'idée que ce lien obligatoire entre l'anticipation du futur et la mémoire du passé a été évoqué par de très grands philosophes, comme par exemple Husserl, qui avait proposé déjà la notion double de rétention-protension, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup réfléchi, comme l'ont fait d'ailleurs des philosophes, à ce lien nécessaire, ce va-et-vient permanent que nous faisons entre mémoire du passé et anticipation des scénarios du futur. Donc, c'est cet aller-retour qui nous a paru intéressant et il nous a paru très important d'essayer d'avoir l'opinion de mathématiciens, de psychologues, de ces différentes disciplines sur cet aspect extrêmement dynamique, si vous voulez, de la relation entre anticipation et mémoire du passé, aussi bien pour un geste que pour des calculs économiques.
Donc si je vous comprends bien, non seulement ce qui peut paraître logique, on puise dans notre expérience passée pour se projeter dans l'avenir, mais ce qui est plus troublant, si je comprends bien, puisque c'est à double sens, c'est qu'on puise aussi dans l'avenir pour réinterpréter le passé. Et tout ça de façon continue, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Je vais vous donner un exemple lié à la pathologie. On a maintenant des données expérimentales en neurosciences, puisque le livre commence par ce chapitre où j'ai fait une petite bibliographie de résumé hein, de ce qu'on peut savoir dans nos domaines de neurosciences cognitives. Des découvertes récentes ont montré qu'il y aurait, lorsque nous faisons les projets pour ce qu'on va faire le week-end prochain ou lorsque les économistes essayent de prévoir comment éviter la prochaine crise, nous aurions des modules dans notre cerveau, donc des aires cérébrales, hein, pour être concret, qui décomposeraient ce qui va se passer dans le futur de la même façon que nous décomposons ce qui passait dans le passé. Vous savez que nous avons plusieurs mémoires. Nous avons la mémoire dite épisodique, c'est-à-dire les événements qui nous sont survenus quand on est allé au cinéma ou qu'on a eu un accident ou qu'au contraire un plaisir.
On se correspond aux questions « où, quoi, quand ».
Voilà, la mémoire sémantique, la signification, etc. Nous avons dans le cerveau des réseaux de neurones différents pour ces différents types de mémoire. Eh bien, nous aurions des réseaux un peu semblables pour les mémoires, pour la construction de scénarios. Ce qui permettrait, si vous voulez, de faciliter cet échange permanent entre le passé et le futur. Alors, il y a des gens qui ont des troubles. Par exemple, les confabulateurs. Les confabulateurs, c'est des gens, par exemple, une dame est à l'hôpital et elle veut sortir en disant « Mais ah, il faut absolument que j'aille donner le biberon à mon bébé. » Oui, elle avait bien un bébé, mais son bébé, il a 30 ans. Ce que cette dame qui a une lésion dans le cortex orbitofrontal, c'est-à-dire là, sur le front, qui est le cortex qui est le lien entre le cerveau des émotions et le cerveau cognitif, cette dame qui a une lésion à cet endroit-là ne peut pas prendre dans la corbeille des mémoires du passé, puisque nous avons une immense quantité, nous avons une véritable bibliothèque de nos mémoires. Et dans sa bibliothèque, il y avait son bébé. Hein. Elle ne peut pas prendre là-dedans ce qui est pertinent pour le présent et pour préparer le futur. Parce que ce que nous faisons tout le temps, c'est que nous allons chercher dans notre mémoire ce qui est important et pertinent pour préparer le futur. Et ces patients ont des difficultés à faire cet aller-retour. Et ce qui est extrêmement intéressant dans cette affaire, c'est que l'identité est en plein milieu. C'est-à-dire entre le passé, notre personnalité, de ce que nous avons fait, de nos mémoires du passé, et nos projets futurs, eh bien, il y a ce que nous sommes maintenant, le présent. Et cette nouvelle façon de relier présent et futur donne aussi une façon complètement différente d'aller examiner l'identité, le soi, ce que je suis maintenant. Je suis tout le temps dans ce va-et-vient entre passé et futur. Vous voyez pourquoi oui, c'est passionnant.
Oui, nous sommes des héritiers. Notre identité est d'être à la fois des héritiers de nos propres expériences, mais est d'être déjà aussi en devenir et des projets.
Voilà.
Donc il n'y a plus d'identité figée.
Voilà, il ne s'agit plus de la photo d'identité, mais il s'agit d'une conception de l'identité comme un devenir permanent. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Autant pour la pédagogie, autant lorsqu'on est un psychologue de l'enfant, qu'on observe la personnalité de l'enfant en train de se faire. L'enfant, il est vers le futur. Aussi bien lorsque on s'intéresse aux personnes âgées, aux patients, ou bien lorsqu'on essaye de regarder sur le plan interculturel comment des gens venus de pays lointains avec des cultures différentes de la nôtre peuvent s'inscrire dans une identité qui n'est pas la sienne et en même temps participer à la construction du futur.
Effectivement, ceci est assez parlant. C'est-à-dire que ça semble réconcilier deux conceptions, je dis, antagonistes de l'identité. C'est-à-dire si je schématise, auparavant, on avait une vision de l'identité qui était juste un héritage d'origine, voilà, plus ou moins pure et fantasmée, voilà. Première version. Deuxième version, plus en vogue aujourd'hui, celle seulement d'un vouloir vivre ensemble ou autre, d'ailleurs, peut-être d'une autre nature, mais on était dans la volonté. Ici, on réconcilie les deux, c'est-à-dire que c'est un mouvement incessant entre ces deux conceptions et qui crée une dynamique.
Qui crée une dynamique qui peut, malheureusement, qui peut tomber d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut, c'est ça aussi qui nous a intéressés dans ce livre, et c'est pour ça qu'il y a des chapitres même de mathématiciens, comme Daniel Benkin, sur des espaces différents. Il y a des chapitres sur la décision, il y a d'autres sur plus physiologiques ou plus personnels, c'est qu'en réalité, cette identité flexible, cette identité dynamique peut très bien changer et peut très bien conduire vers un enfermement ou au contraire une ouverture à l'autre, la tolérance ou bien au contraire la caricature d'autrui si on enferme cette identité. Et je m'intéresse par exemple beaucoup aujourd'hui à des problèmes liés à des âges chez l'enfant, entre 10-12 ans, dans lesquels l'enfant peut apprendre soit la tolérance, soit la haine.
Donc c'est-à-dire que le fait d'avoir une conception dynamique de l'identité ne résout pas le problème moral ?
Pas du tout.
Nous voilà allant de déconvenu en déconvenu. Moi qui pensais qu'on avait la solution pour réconcilier les racines et les ailes, et en fait non. Vous parliez des enfants, un des thèmes très à la mode. Il y a encore un magazine qui, cette semaine même, titre sur l'empathie et nous explique que par nature, dans un article, que par nature, les enfants sont empathiques, de même d'ailleurs que les primates. Ce que vous semblez dire, c'est qu'au moment de l'adolescence, en fait, tout ça peut être mis en cause et que ce n'est pas gagné.
Non. On sort là un tout petit peu du thème de ce livre, mais pas tellement. Il se trouve que je travaille beaucoup sur la question de l'empathie, puisqu'avec Gérard Jorland, nous avons même publié chez Odile Jacob, il y a quelques années, non pas un livre d'auteur, mais un séminaire pour essayer de comprendre ce qu'est l'empathie. Et récemment, avec une philosophe, Bérangère Thiriou, un historien des sciences, Gérard Jorland, nous avons fait des travaux scientifiques pour essayer de montrer la différence entre la sympathie et l'empathie. Vous savez, l'empathie, aujourd'hui, c'est un terme un peu à la mode, puisqu'on peut même acheter une machine à laver empathique. Il faut faire attention à ces termes à la mode. Tout est empathie, l'autisme, c'est l'empathie, la relation avec autrui. En réalité, quand on regarde de très près, il y a deux mécanismes fondamentaux très différents. La sympathie, qui est une contagion émotionnelle, une résonance. Et l'empathie, c'est compliqué. L'empathie, c'est à la fois être capable de se mettre à la place de l'autre, percevoir sa souffrance à sa place, mais aussi l'inhiber. Parce que si je suis un médecin et que je suis vraiment empathique avec mon malade, je ne vais pas me mettre à souffrir comme lui. Donc c'est un mécanisme qui, lui aussi, recèle des mécanismes très complexes qu'il faut enrichir. Mais ce n'est pas tout à fait le sujet du livre, bien que nous l'ayons évoqué.
Oui, parce qu'il y a, je repense au voyage mental. Alors peut-être que je fais totalement fausse route dans mon propre voyage mental, mais il semble que dans le mécanisme de l'empathie, en tout cas j'ai compris cela, vous expliquez que c'est aussi l'œuvre d'un voyage mental qui consiste à se mettre à la place de l'autre, de créer de changer de point de vue, d'être capable de cela.
Oui, c'est ma thèse. C'est notre thèse, effectivement, avec Bérangère Thiriou et Gérard Jorland. Et c'est d'ailleurs ce qui avait déjà été dit par les grands philosophes allemands à l'origine, qui avaient été beaucoup étudiés ces questions, Vischer, Lips, etc. Pour être empathique, il faut se mettre à la place de l'autre. Il faut changer de point de vue. Et j'ai fait une théorie que j'ai plus particulièrement développée dans mon dernier livre, La vicariance, et aussi d'ailleurs celui d'avant, La simplexité. J'ai fait une théorie spatiale de l'empathie dans laquelle je dis qu'il faut, pour être empathique, utiliser les mêmes mécanismes que ceux qui nous permettent de changer de point de vue. Mais vous savez, changer de point de vue, c'est aussi ce qui se produit lorsqu'on prédit, lorsqu'on anticipe. Parce que pour bien anticiper et prédire, et revenons au sujet de ce livre, il faut être capable d'envisager l'avenir de différents points de vue. Et donc, effectivement, il y a dans cette capacité proprement humaine de changer de point de vue, de regarder le réel de différentes façons pour pouvoir anticiper quelque chose de commun entre l'anticipation d'une action, que ce soit dans un jeu au rugby, au foot, ou que ce soit dans une relation sociale, ou pour prédire l'avenir de la planète, il y a cette capacité de notre cerveau d'envisager le réel de différentes façons. Alors dans le livre, il y a un chapitre extrêmement intéressant, à mon avis, d'Étienne Quéclin. Étienne Quéclin est le directeur, c'est un polytechnicien économiste qui dirige l'École normale supérieure, le laboratoire de neurosciences cognitives. Et il a fait des études et des articles remarquables sur la décision et les bases neurales de la décision, et en particulier le rôle du cortex préfrontal dans la prise de décision. Et alors lui, il a un modèle qu'il décrit rapidement dans son chapitre, qui est très lisible d'ailleurs, il y a très peu de mathématiques. Il a fait un modèle qui dit qu'en fait, nous, dans notre cortex préfrontal, nous avons la possibilité d'envisager trois scénarios, pas 36. Mais trois scénarios, pas sept, pas huit, trois, vous savez. Et donc ça, c'est pas mal, parce que ça veut dire qu'on pourrait envisager, devant une situation à venir, non pas une, mais plusieurs possibilités. On revient, vous voyez, à cette idée du changement de point de vue.
Trois, ça suffit d'ailleurs pour créer une triangulation et donc peut-être pour trouver l'endroit où se situer de façon la plus efficace, non ?
De façon ?
Lorsqu'on n'a que deux points.
Ah oui, oui.
Ça ne suffit pas pour trouver le bon endroit.
Trois,
ça suffit pour faire une triangulation.
Trois, c'est pas mal. Oui.
C'est ce qu'on apprend en artillerie, en tout cas.
En artillerie, oui. Oui.
Est-ce que c'est pas aussi une question de... Est-ce que ça ne pousse pas à la modestie, cette façon du cerveau d'y... Voilà. On n'est pas dans le prophétisme, là. On est dans les hypothèses. Est-ce qu'on fonctionne par hypothèse ? Est-ce que la dynamique d'apprentissage, de prédiction, d'anticipation, est-ce qu'il ne faut pas se souvenir, justement, que ça fonctionne comme cela ?
Alors, merci de cette question parce que nous sortons d'un siècle où a dominé une pensée rationnelle dans laquelle on a essayé, en matière de cerveau comme en matière d'économie, de rationaliser tout. Ce qui a conduit d'ailleurs à des dérives, comme les dérives financières, etc., des modèles abstraits du monde, de soi, de l'homme. On a oublié l'émotion complètement, etc. Et puis, en ce moment, on assiste à un mouvement scientifique, sérieux, extrêmement intéressant, qui examine de près le fait que notre cerveau est une machine non déterministe, c'est-à-dire qui, finalement, utilise autant l'émotion que la raison et qui fait des paris. Au fond, le cerveau, c'est un parieur sur l'avenir. Et dans le livre, pour lequel vous avez eu la gentillesse de m'inviter, l'anticipation, la prédiction sont examinées par Pierre Bessières et Jacques Droulez. Pierre Bessières est un roboticien et Jacques Droulez un polytechnicien mais devenu physiologiste. L'anticipation, la prédiction sont dans leur chapitre examinées du point de vue de la théorie des probabilités. Et là, il y a un modèle aujourd'hui qui fascine beaucoup de gens, qui est le modèle du révérend Bayes. Le révérend Bayes, c'était un prêtre anglais qui a fait une formule mathématique qui est censée être assez universelle, c'est-à-dire qu'elle met en relation la probabilité, les événements passés, la probabilité du futur, et dans cette formule, là encore, le passé et le futur sont mélangés, et il en sort une probabilité qu'un événement puisse se produire. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans une période où il faut examiner ces questions des bases neurales de l'anticipation et de la prédiction par notre cerveau à partir de modèles non déterministes. Alors, vous voyez, j'hésite un petit peu à dire des modèles probabilistes parce que les probabilités, et nous avons à l'Académie des sciences d'immenses spécialistes des probabilités, mais les probabilités, il y a différentes théories, différents outils mathématiques et on ne sait pas très bien, si vous voulez, quels sont les outils mathématiques qui pourraient être applicable le plus au fonctionnement du cerveau. Mais il est clair qu'on doit aujourd'hui, plus que jamais, examiner ces questions des bases neurales de l'anticipation et de la prédiction à partir de modèles non déterministes. Et pour ça, les modèles de Bayes sont intéressants. Ils sont intéressants en particulier parce que ils font la relation entre patient et... Quand on essaie de savoir le temps qu'il va faire demain... Rappelez-vous, la sagesse populaire a toujours relié le passé et le futur. Dans les campagnes, on disait que quand les oignons ont plusieurs couches, je crois, eh bien, l'hiver sera rigoureux. Il y a le proverbe, je crois que c'est Noël au balcon, pas cotison. Hein, tout ça, c'est un magnifique exemple de relation entre... le passé et le futur. Aujourd'hui, il faut utiliser les maths, pourquoi pas.
Oui, parce qu'il y a quelque chose aussi qui probablement justifie la passion. C'est une passion contemporaine, quand même, l'anticipation, la prédiction, avec une nuance près, c'est qu'on a quand même le sentiment que la vision de l'avenir est devenue plus pessimiste, à la fois plus ouverte auparavant, en tout cas... Oui, avant la Seconde Guerre mondiale, c'est certain, avant la Première encore plus, que l'avenir devait être forcément un progrès, qu'on allait vers un monde plus... voilà, c'était l'âge des utopies. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu retourné. On est plus dans l'inquiétude et aussi dans le désarroi, parce que le monde est devenu d'une complexité sans faille. Peut-être a-t-il toujours été ainsi, mais aujourd'hui, nous en avons conscience.
Absolument. Alors, vous avez employé un grand mot, hein, la conscience. Oui, moi, je viens de lire, j'hésite pas à le dire parce qu'il m'a paru le livre d'un honnête homme, au sens, dans le sens du mot, hein, pas honnête au sens financier, mais de l'honnête homme, entre guillemets, que je viens de lire le livre de Michel Rocard sur le suicide de l'humanité et le suicide de l'Occident. Qui est un examen de ce dont vous parlez. Non, on peut voir les choses comme d'habitude de deux façons. L'anticipation, la prédiction qui nous réunit maintenant, c'est une propriété fondamentale nécessaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour survivre. Le lézard qui veut attraper une mouche ne peut pas lancer la langue, sa longue langue, là où est la mouche. Il n'attraperait jamais, il ne mangerait jamais. Il est obligé de la lancer un peu avant. À Roland-Garros, on n'attraperait jamais la balle qui va à 150 km à l'heure après le service si on lançait la raquette là où est la balle. Donc il y a des mécanismes sous-corticaux très rapides qui nous permettent d'anticiper. Chez nous, ces mécanismes élémentaires, fondamentaux, ont aussi donné lieu à cette capacité extraordinaire que nous avons grâce à ce cortex préfrontal, la mémoire, etc., d'aller anticiper l'avenir. C'est certain qu'on peut prédire à la planète et à l'humanité des avenirs divers, suivant qu'on est un grand optimiste ou un grand pessimiste. Pour le moment, on est plutôt inquiet. Voilà. Tout va dépendre de la capacité... de l'homme, de réagir. Vous savez, au Collège de France, actuellement, nous avons réuni quelques amis, dont plusieurs sont académiciens d'ailleurs, dans un tout petit groupe pour essayer de réexaminer les relations entre l'homme et la nature. Parce qu'on a l'impression que une grande partie des problèmes que nous avons viennent d'une espèce de séparation qui s'est faite entre les extraordinaires progrès de la technologie, de l'homme et l'analyse des processus de la nature qu'on connaît très bien. Bon, c'est banal de dire ça. Donc chacun fait son chemin aujourd'hui. Je crois que beaucoup de gens essayent de réfléchir à l'avenir de l'humanité, de la planète. Mais vous savez, au cours de l'évolution, il y a eu des périodes progressivement d'accumulation des espèces, et puis il y a eu des périodes de disparition massive et rapide. Est-ce que... Donc, il faut tout envisager, hein, mais c'est là où notre cerveau est capable de changer de point de vue.
Et c'est ça, voilà. C'est nous rassurer ou nous inquiéter, est-ce que vous venez de
dire ? Ça, c'est la science. La science n'est pas là pour rassurer ni pour inquiéter, elle est là pour décrire les faits. Nous sommes à l'Académie des sciences, n'est-ce pas ? Mais...
Toutefois, dans ce phénomène d'anticipation et de projection vers l'avenir, oui. Il y a quand même eu des périodes où on sent qu'il ne s'agit pas seulement pour l'humanité d'essayer de deviner ce qui devrait ou va advenir, mais ce sont des périodes extrêmement fécondes, dynamiques, où l'imagination se met en branle pour envisager la naissance, voire la construction d'un monde meilleur, différent, enrichi. Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous sommes dans cette démarche-là ?
Les données récentes des neurosciences cognitives apportent aussi des éléments sur les bases neurales. Il faut me pardonner, hein, mais je suis un physiologiste, donc mais je suis
tout
obligé de parler
tout oui.
Bon, les bases neurales de l'imagination. Alors, il y a cette découverte importante qui a été faite par plusieurs équipes et qui est confirmée du fait que les mêmes structures dans notre cerveau sont activées, ou presque les mêmes, lorsque nous imaginons un mouvement, et lorsque nous le faisons. C'est extrêmement intéressant. Et ce n'est pas seulement le neurone miroir. Vous savez que le prix Brain a été donné à Giacomo Rizzolatti, l'Italien, qui d'ailleurs est membre correspondant de notre Académie des sciences, qui a découvert ce qu'on appelle les neurones miroirs. Les neurones miroirs sont des neurones dans le cortex frontal, ici, qui sont activés aussi bien lorsque je prends un verre, donc c'est des neurones prémoteurs, que lorsque je vois quelqu'un d'autre prendre ce verre. C'est-à-dire qu'ils codent à la fois l'action que fait autrui et son intention, finalement. Hein, on est dans la prédiction. Et l'action que je fais, moi. Mais là, c'est plus que ça. C'est-à-dire que lorsque nous imaginons le réel, nous mettons vraiment en route des mécanismes très proches de l'action. Je ne sais pas si vous rêvez. Moi, je rêve toutes les nuits et je fais des cauchemars. Toutes les nuits, toute ma vie. J'ai une deuxième vie qui est faite... pardonnez-moi d'en rire, mais je suis obligé, parce que sans ça, qui n'est faite que de cauchemars. Mais ces cauchemars sont tous réels. Notre cerveau, au fond, n'a pas besoin du monde. Je vais faire une provocation en disant ça, évidemment. Le fait que les cauchemars que je fais, que les rêves que nous faisons, nous semblent tellement réels, hein, on prend le train, on rencontre des gens, on a des ennuis, moi je loupe des conférences, etc. Bon. Mais nous savons que dans ces circonstances, le cerveau est complètement coupé du monde extérieur. Et ceci est possible parce que nous accumulons au cours de l'enfance, du jeu en particulier, dans les 15 premières années de notre vie, ce que nous appelons des modèles internes de notre corps et du monde. C'est-à-dire que nous avons un petit cinéma là, dans lequel nous avons un double. Un double de notre corps, c'est une donnée, vous savez, de la littérature. Gilgamesh avait un double, c'est ce qu'il le décrit. Mais nous savons maintenant que nous avons dans notre cerveau, et en particulier dans des structures très particulières qui sont le cortex temporopariétal, etc., nous avons un véritable double de nous-mêmes. Le schéma corporel, ça s'appelait. Et c'est ce deuxième nous-mêmes, plus ces modèles internes, aussi des lois de Newton, qui nous permet de simuler le monde, même d'émuler. Alors là, j'emploie un mot encore plus fort. Notre cerveau est capable d'émuler le réel sans avoir de confirmation du monde. Donc nous avons la capacité de créer des utopies. Et donc, effectivement, d'imaginer peut-être des relations avec le monde qui sont différentes de celles d'aujourd'hui. En même temps, vous savez, c'est ça qui est passionnant quand on regarde ces questions sur le plan scientifique, c'est de voir à quel point les mécanismes dont l'évolution nous a dotés permettent aussi bien d'améliorer la condition humaine et la nature et ses rapports avec la nature que de créer les catastrophes. Cette ambivalence est extraordinaire. Nous venons d'organiser récemment à l'Institut d'études avancées de Paris, à l'hôtel de Lauzun, avec Philippe Rochin, un grand spécialiste de la psycho de l'enfant, un séminaire de réflexion sur la méchanceté chez l'enfant. Philippe Rochin avait décrit le fait qu'à partir de 5 ans, 8 ans, qui est d'ailleurs l'âge où on commence à pouvoir anticiper, changer de point de vue, on parle souvent de la capacité de l'enfant d'acquérir la morale, l'éthique. Mais en même temps, cette capacité d'acquérir la morale, l'éthique, de se mettre à la place de l'autre pour comprendre sa souffrance, elle est aussi ce qui permet la méchanceté, le mensonge. C'est amusant, hein ? Enfin, c'est amusant. Voilà, on peut voir le monde sous ses deux faces. C'est à nous d'assumer cette responsabilité, de faire en sorte que notre cerveau arbitre du bon côté.
Ça nous fait basculer dans autre chose. Donc, si je comprends bien ce que vous me dites, l'empathie permet à la fois de comprendre la souffrance de l'autre pour l'aider, mais aussi de se mettre à sa place pour le torturer.
Mais oui, mais vous savez, c'est le problème du syndrome de Stockholm que François Cironi a si bien étudié. Ces gens qui finissent par aimer leur bourreau. Il y a même pire que ça. Oui.
Tout ça nous ouvre des abîmes. Je vais revenir sur quelque chose de à la fois plus réjouissant et certainement lié. Vous faites état de l'usage du GPS et de la capacité à mixer, si j'ai bien compris, différents niveaux ou façon d'appréhender quelque chose qui est représenté, en signalant que le GPS est le plus généralement utilisé avec une vision dite oblique,
oui,
et non pas seulement plane,
oui,
parce que cette vision nous permettrait de mixer deux types de perceptions. Est-ce que vous pouvez nous développer les avantages de cette façon de faire ?
On va prendre un cas très concret. Hein. Imaginez le chemin que vous faites pour aller de chez vous jusqu'à votre bureau. Hein. Vous pouvez le faire comme les femmes aiment bien le faire, d'ailleurs, en vous rappelant les événements successifs, les épisodes. Hein, c'est un petit peu comme la description du langage. Votre corps, vous avez tourné dans la rue à tel endroit, vous êtes passé sous un pont, etc. C'est une stratégie cognitive que nous appelons égocentrée, parce qu'elle est centrée sur le corps. J'ai tourné à droite au feu, j'ai suivi l'avenue, etc. C'est une séance d'événements. Description égocentrée du trajet. Mais vous pouvez aussi utiliser une carte. Une carte, c'est ce que dans laquelle votre corps, votre expérience n'intervient pas. C'est ce que nous appelons une stratégie allocentrée de mémorisation des trajets. Et c'est ce que les hommes aiment bien faire. Ça, c'est une question simplement entre les hommes et les femmes de partage entre le cerveau gauche, le cerveau droit. On pourra en parler si vous voulez. Ces stratégies de route, finalement, ou de carte, peuvent être utilisées. Et quand on utilise le GPS en voiture, quand on conduit en voiture, on est dans la stratégie égocentrée, parce qu'on est là au volant, on voit ce qui se passe. Et lorsqu'on regarde la carte, on utilise une stratégie allocentrée. Et d'ailleurs, il faut un certain temps pour passer entre les deux. Moi, quand j'utilise les deux, mon épouse n'était pas très contente que je lise la carte, et avait raison, parce qu'en réalité, nous avons montré avec des techniques de réalité virtuelle qu'il faut pas mal de temps pour passer de l'un à l'autre. Et d'ailleurs, nous avons aussi montré que les patients schizophrènes, en particulier, ont des difficultés pour changer ces stratégies. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, puisque c'est ce que vous mentionnez, c'est que les GPS, aujourd'hui, utilisent un point de vue oblique. Et il m'est venu à l'idée que peut-être la raison pour laquelle empiriquement les industriels ont choisi ce point de vue oblique, c'est parce que cela permet au cerveau d'encoder, de mémoriser les deux aspects du trajet, l'aspect égocentré, je conduis en voiture, ou l'aspect allocentré, la carte, en même temps, puisque nous savons que ce sont des réseaux différents dans notre cerveau qui traitent ces informations dans ces deux modes opératoires. Alors l'avantage de l'oblique, c'est notre hypothèse, on ne l'a pas complètement montré parce que les choses ne sont jamais simples, l'hypothèse c'est que le fait de montrer en oblique permet d'encoder dans les deux stratégies et après ça, lorsque nous voulons utiliser cette information en fonction de notre âge, de notre sexe, de notre désir, de notre tâche, eh bien nous allons pouvoir utiliser l'une ou l'autre de ces stratégies. Voilà. Alors on fait l'IRM de ça, on est allé au centre d'imagerie de nos collègues du CEA pour aller regarder ce qui se passe dans le cerveau dans ces différentes conditions.
À ce sujet, vous précisez qu'il est probable que cette perspective oblique favorise l'anticipation dans l'usage prospectif de la mémoire des trajets.
Oui, bien sûr, parce que là aussi, pour anticiper le trajet, si je veux revenir, si je suis dans une ville nouvelle, à Paris, je suis un étranger, j'arrive, je sors au métro Arc de Triomphe, je vais aller à la Tour Eiffel, j'y vais, et puis je veux revenir, par exemple, je veux revenir par un autre chemin. Si je veux composer un autre chemin que celui que j'ai fait, je dois passer d'un mode de codage à un autre. Si je veux planifier d'autres solutions que celles que j'ai employées, eh bien, je dois trouver d'autres chemins. Et ce modèle du passage égocentré à allocentré est un modèle très général, finalement, de réflexion, même pour la pensée la plus complexe. Si l'on veut trouver des chemins nouveaux, il faut pouvoir jouer en quelque sorte dans notre cerveau sur ces différents modes de représentation. Et c'est la difficulté d'aller prédire l'avenir en quelque sorte, d'aller planifier, À notre avis, est beaucoup lié à cette capacité. Et je travaille aujourd'hui avec des psychiatres ou des gens de la psychologie de l'enfant, parce que, avec l'idée qu'il y a des troubles du développement de l'enfant ou des troubles psychiatriques qui sont liés à cette difficulté de faire ce que moi j'appelle la manipulation des points de vue.
Oui, justement, cette expérience sur le GPS et sa conclusion tend à laisser penser que ça ouvrirait des perspectives incroyables en termes d'apprentissage et apprentissage de données qui soient de vrais outils à user pour la vie. C'est-à-dire que si une vision oblique, la capacité à mobiliser simultanément par une technique différentes aires pour les mêmes acquis.
Mais là, vous posez. En fait, c'est déjà beaucoup. Excusez-moi.
Non.
En fait, la situation est déjà bien plus avancée que cela. Les jeunes qui aujourd'hui jouent aux jeux vidéo, dans lesquels ils passent leur temps à changer d'espace, de lieu, de point de vue, etc., ont un entraînement absolument extraordinaire à tout ça.
Ils ont un entraînement extraordinaire à une situation qui, si j'en crois l'intervenant qui travaille dans le domaine du management, qui est consultant en management, qui intervient, semble avoir une vision légèrement moins optimiste de ce monde dans lequel tout est réseau, tout est fluide, dans lequel il devient difficile de devenir acteur de carrières qui ne sont plus linéaires, ça on l'a bien compris, mais où on peut être transporté d'un plan à un autre en permanence, là où le système, la matrice vous dit d'être. Est-ce que ce monde-là, on ne se retrouve pas un petit peu comme le taureau dans l'arène à force de dire que rien n'est acquis?
Oui. Alors, c'est Didier Nau, NAUD, qui a rédigé ce dernier chapitre, ou cet avant-dernier chapitre, parce qu'on a aussi un chapitre par un roboticien Galab, sur la question de l'anticipation chez les robots, et en particulier robots humanoïdes. Oui, le problème est qu'aujourd'hui, l'extraordinaire crise d'organisation des entreprises, la modification permanente des métiers, conduit à déplacer les travailleurs d'un métier à un autre, d'un lieu à un autre, et à leur faire perdre complètement l'identité. C'est-à-dire là, il ne s'agit pas simplement d'une valorisation de la capacité de changer de point de vue, il s'agit d'une catastrophe par le fait que les gens perdent complètement leur repère. Moi, j'ai organisé au Collège de France, il y a quelques années maintenant, un grand colloque sur le travail avec Yves Clot, CLOT, professeur de psychologie du travail au CNAM. Le titre de ce colloque a été « Travail, identité, métier, deux points, quelle métamorphose ?» Point d'interrogation. Et on avait d'ailleurs interdit aux gens de parler de ce qu'ils faisaient. On leur avait demandé de parler que des métamorphoses. On a fait d'ailleurs une journée après au Sénat. Parce qu'en effet, il y a un bouleversement permanent actuellement des métiers. Et si on demande au cerveau de ces opérateurs de changer complètement, pas seulement de métier, parce qu'à la limite, ça peut être un défi, mais surtout de référence, du sens de leur travail, ils sont complètement perdus. Donc là, on a, comme d'habitude, et on disait tout à l'heure, une perversion, finalement, de cette flexibilité que nous permet le fonctionnement de notre cerveau.
Oui, parce que si on demande aux gens ce qu'ils font désormais, la plupart n'ont pas de métier à mettre en avant, mais juste des fonctions.
Oui, voilà. C'est un fait. Mais vous savez, c'est un autre sujet, mais...
Nous dites que le cerveau humain n'est pas adapté pour ce type de comportement...
Il a des limites, Kaecklin, dans le livre, dit « Nous avons la possibilité de faire trois scénarios, nous avons quand même des capacités limitées, à la fois sur le plan du contenu et sur le plan temporel, qu'il ne faut pas trop solliciter ou dépasser ».
À vous entendre, on se demande si l'étude du cerveau ne va pas seulement aider à résoudre les pathologies de chacun, bien connues, ou à les comprendre, mais peut-être aussi les pathologies sociales, du coup.
Oui, merci d'évoquer ce mot social. Depuis une quarantaine d'années, trentaine d'années ou quarantaine d'années, les neurosciences ont progressé de façon formidable, et en particulier ce que nous appelons les neurosciences intégratives. Moi, j'appartiens à une section qui s'appelle biologie intégrative. Et donc, je travaille à un niveau qui n'est pas le niveau simplement de la biologie moléculaire ou de la génétique, mais que c'est un niveau plus intégré. Et l'essentiel de nos travaux dans ce domaine des neurosciences cognitives a concerné surtout ce que nos amis philosophes appellent le sujet solipsiste, c'est-à-dire le sujet tout seul vis-à-vis du monde, hein, comment je perçois, comment j'agis, comment j'anticipe, etc. Et depuis 5-6 ans, est apparu un champ complètement nouveau, qui est le champ des neurosciences sociales, c'est-à-dire l'échange avec autrui. Alors, il y avait la psychosociale, ça existait. Et en France, elle a quasi disparu. Mais il y a un domaine, la psychosociale. Mais le fait de relier tous ces problèmes d'interaction avec autrui, vous mentionniez l'empathie, mais il y en a d'autres, avec en étudiant leur base neurale, est une avancée récente. Et il y a eu, par exemple, il y a quelques années, 3 ans, 4 ans, je crois maintenant, la création par Jean Decetti, qui est parti aux États-Unis, qui est un très bon psychologue neuroscientiste, du journal Social Neuroscience, qui est un journal qui rassemble des données récentes, nombreuses, sur cet aspect social. Et là aussi, dans le livre que nous avons publié chez Odile Jacob avec Claude Debrue, il y a très peu de données sur le plan social. Parce que, au fond, il y a assez peu de données qui sortent, bien que un domaine un peu particulier qui s'appelle la neuroéconomie, aujourd'hui construisent des paradigmes expérimentaux qui sont franchement sociaux, puisqu'il s'agit de prendre plusieurs personnes qui parient sur des sommes d'argent. Et il y a là un domaine nouveau, et je pense qu'un livre à l'avenir sur l'anticipation de la prédiction pourrait prendre en compte beaucoup plus ces aspects de ce qu'on appelle dans nos domaines la cognition distribuée, c'est-à-dire le fait que c'est le cas des chirurgiens, si vous voulez, aujourd'hui, une grande décision pour opérer quelqu'un n'est pas prise par le chirurgien tout seul, c'est prise par ce qu'on appelle le staff, c'est-à-dire 5 ou 6 personnes qui se mettent ensemble et qui partagent des savoirs. Et ça, c'est un domaine passionnant pour l'avenir.
Oui, d'autant que notre société se veut de plus en plus coopérative, collaborative, en réseau, que sais-je encore.
Ah, non, pas de plus en plus, monsieur.
Elle se veut de plus en plus.
Elle a été. Il y a eu des grands mouvements d'organisation sociale de la société sous des formes coopératives. Je ne fais pas mention du communisme, mais sous l'aspect coopératif, mutualiste, par exemple, il y a eu de très grands mouvements. Et il y a un retour aujourd'hui, je dirais, à des tentatives de ce genre. Et effectivement, le défi pour nous, les gens des sciences du cerveau, des sciences de l'homme, c'est de travailler, ça c'est très important, et c'est pour ça que le livre a été fait avec Claude Debrue, de travailler avec les sciences humaines et sociales. Et donc aujourd'hui, ces questions demandent une vraie interdisciplinarité, c'est-à-dire un vrai travail en chantier. Le livre, là, le petit livre qui a attiré votre attention, c'est un livre d'atelier, c'est un livre de chantier dans lequel on rassemble les gens pour réfléchir ensemble. C'est ça qui est intéressant dans la soi-disant interdisciplinarité.
Ma dernière question concerne l'inquiétude que tous ces termes font naître. Vous avez parlé de neuroéconomie, il y a aussi du neuromarketing, du neuromanagement, toutes choses qui peuvent être un petit peu effrayantes, parce qu'on a l'impression que ceux qui savent vont pouvoir actionner des choses pour diriger, voire manipuler, emmener là où ils le souhaitent, d'autres personnes. C'est certainement un vrai danger.
Oui, oui, vous avez raison, mais je pense qu'ici, à l'Académie des sciences, nous sommes tous conscients que toute découverte scientifique peut conduire à des applications, soit dangereuses, soit maléfiques, soit exploitant les hommes pour leur mal, mais pas dans le sens du droit ni de la morale. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, les découvertes sur le système nerveux en particulier, puisqu'on trouve le mot « neuro » devant « neuroéthique », « neuroéconomie », « neuro », tout ce qu'on veut, les découvertes du cerveau peuvent très bien être utilisées par tous. Mais c'est à ce moment-là que doivent intervenir les mécanismes régulateurs de la société. Et je crois qu'il y a ce genre de réflexion, si vous voulez, font partie de notre travail aussi au sein de l'Académie des sciences. Et d'ailleurs, en relation aussi avec les autres académies. Moi, j'ai participé à des réunions organisées par François Gros avec l'Académie des sciences morales et politiques sur les questions dont on a parlé. Et je crois que c'est aussi les sujets dont nous venons de discuter des sujets qui peuvent faire l'objet de discussions entre nos académies. Et d'ailleurs, je crois qu'elles ne s'en privent pas. Et d'ailleurs aussi avec l'Académie des technologies à laquelle j'appartiens et qui est un lieu de discussion de ces questions-là. Parce que les ingénieurs doivent anticiper et prédire.
Dans le même ordre d'idée, est-ce que la publication d'ouvrages de vulgarisation, les diffusions du savoir et de ses recherches dans le grand public n'est pas déjà une manière de les immuniser contre des tentatives de manipulation ? Est-ce que finalement, le danger, ce n'est pas qu'il y ait une fracture entre ceux qui savent, ceux qui sont totalement ignorants de ces mécanismes ?
Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec Odile Jacob. Allez, on fait une petite séquence d'hommage, là. Parce qu'Odile Jacob, elle nous a donné l'occasion, depuis longtemps maintenant, de faire ses livres de débat. Et elle joue un rôle très important dans cette interface entre la science et la société. Et je crois qu'on doit lui être reconnaissant parce que c'est un travail difficile qu'elle fait avec nous et en particulier aussi avec ses éditeurs. Et c'est vrai qu'elle n'est pas la seule. Je veux dire, il y a d'autres éditeurs, mais le livre, quand il est conçu dans cette optique-là, est effectivement un des moyens importants. Comme la radio, et en particulier la radio de l'Académie.
Merci beaucoup. Du reste, cette question n'était pas une vraie question, car c'est une conviction. Je pense qu'effectivement, il faut absolument que nos auditeurs se plongent dans les livres dont nous parlions, et en l'espèce, dans votre ouvrage, dont je rappelle les coordonnées, Anticipation et prédiction du geste au voyage mental, se plonge donc par Alain Berthoz et Claude Debru, et bien d'autres, puisque c'est sous la direction d'Alain Berthoz et Claude Debru. Il est fondamental de se plonger dans ce type d'ouvrage, car précisément, il faut s'approprier ses connaissances, devenir acteur de ses connaissances, exercer son cerveau pour ne pas devenir simplement objet. C'est peut-être ça aussi le geste scientifique, chercher soi-même, s'exercer, et pas seulement en faisant des sudokus. Merci beaucoup.
Merci à vous. Thank you.